C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, épisode spécial puisque nous avons le plaisir d'être avec un invité. Sous ses airs de cool kid, moitié surfeur, moitié aventurier, se cache un créateur de contenu hyperactif. Et depuis bientôt 10 ans, Julien Fabreau, qui est en face de moi en ce moment, arrose le web de ses productions photos et vidéos hyper léchées. Les plus anciens d'entre vous, dont je fais partie, ils se souviendront peut-être de ce média créatif qui a été lancé en 2013, qui s'appelait Piwi. C'était vachement bien, Julien. Voilà, moi, je suivais à l'époque Piwi. Et puis, depuis bientôt maintenant 6 ans, il régale YouTube, Instagram, de ses vlogs aux quatre coins du monde, hein, beaucoup de voyages, que ce soit en mode van life, à bord de son combi fait maison, à moto, en bateau, en surf électrique, à peu près tout ce qui roule ou qui vole. Le garçon à la bougeotte. Aujourd'hui, Julien Fabreau, c'est 108 000 abonnés sur YouTube, 45 000 followers sur Instagram. Il a un paquet de trucs à nous raconter. Je suis très heureux, Julien, de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'être avec nous au micro du Super Daily.
Ben merci, on fait un check, on refait un check.
On peut, carrément, bien sûr. Oui, parce que là, on fait semblant qu'on se rencontre, mais ouais, on a eu le temps de papoter avant.
Yes, et ben écoute, merci pour l'invitation. Belle présentation, c'est vrai que quand on prend un peu de recul, ça fait pratiquement 10 ans que je fais ça.
T'es un vieux de la vieille.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, j'ai la trentaine, je commence à avoir les rides, je le vis mal en vrai. mais cool. Comme tu l'as dit, j'ai la bougeotte et tout ce qui est un moteur, ça me fait kiffer. Et en plus de ça, voilà, je passe quand même beaucoup de temps à l'étranger pour produire du contenu, pour le diffuser pour moi, pour le faire pour des marques. Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles parler aujourd'hui.
Ouais, on va se dire un paquet de trucs. J'espère que t'as un petit peu de temps devant toi.
Oui,
parce que
moi, c'est quoi le record de l'émission?
On a déjà fait très long, on a déjà passé l'heure et demie, donc on a des trucs à se raconter. Moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle ensemble de création de contenu, évidemment, de plateforme, d'algorithmes peut-être, de ligne éditoriale, parce que je vois chez toi un vrai sujet intéressant autour de la manière dont tu structures ta ligne éditoriale. J'aimerais aussi qu'on parle de relations aux marques, hein, parce que t'es ambassadeur d'un certain nombre de marques. Bref, un paquet de trucs à dire. Et avant de commencer, j'aimerais te poser une question toute bête, c'est comment tu racontes aujourd'hui ton métier à quelqu'un que tu croises, qui ne te connaît pas, ou à tes parents, tiens? Tu leur dis quoi?
Je ne m'attendais pas à cette question. En vrai, c'est toujours l'enfer de présenter des métiers nouveaux que les gens ne connaissent pas. Genre, tu prends l'exemple de mes parents. Mes parents, donc j'ai commencé en tant que community manager. Ensuite, j'ai été blogueur, ensuite youtubeur. Et en fait, il y a eu tout un grand âge.
Ouais.
J'ai passé du temps à éduquer tout le monde, toute ma famille et compagnie. Ils connaissaient déjà pas trop Facebook, les réseaux sociaux. Donc en fait, ouais, il y a eu une éducation. Aujourd'hui, comment je me présente? Alors, ma famille, ça va maintenant. Je leur dis, je fais des vidéos sur Internet.
Ça, ils ont pigé le truc.
Ils ont pigé. Ils me suivent sur YouTube et compagnie. Donc ça va. Par contre, c'est hyper intéressant que tu poses cette question parce que, de plus en plus, j'essaye de simplifier ce que je dis pour que ça soit compris et ne plus faire de différence entre l'influence et la création de contenu. En fait, quand tu dis que t'es youtubeur ou que tu bosses dans le social media, il y en a beaucoup qui te disent que t'es influenceur. Ouais. Et aujourd'hui, influenceur, c'est hyper mal vu. Genre vraiment.
Ah bah oui, je sais.
Genre vraiment.
Oui, c'est pas ouf.
Voilà,
c'est
arrêté des...
T'as pas de tendinite, toi, aujourd'hui, c'est bon?
Non,
pas de tendinite. Ok, c'est bon.
Pas encore. Pas encore. Et j'habite pas à Dubaï. Mais en tout cas, je simplifie vachement ce que je dis, parce que c'est... Enfin, influenceur, aujourd'hui, c'est vraiment mal vu et compagnie. Donc, maintenant, je me présente simplement comme photographe et vidéaste.
Ok.
Et je dis même plus que je suis sur les réseaux. Sauf si on entame une conversation avec quelqu'un.
D'accord.
Mais je simplifie au max parce que, quand t'es créateur de contenu, / influenceur, t'as toute ta vie pro et toute ta vie perso qui est un petit peu mélangée. Donc, t'as du mal à trouver un équilibre entre les deux. Et le fait de montrer ce que tu fais en permanence, tu perds quand même beaucoup de gens. Et tu le disais tout à l'heure, ça fait pratiquement 10 ans que je fais ça. J'ai perdu beaucoup d'amis, de connaissances, de trucs, alors peut-être par jalousie, peut-être par autre chose, je sais pas, mais il y a tout un côté qui t'éloigne un petit peu des gens, t'es un petit peu perçu comme un extraterrestre. Donc j'essaye de me présenter un peu plus de manière simple pour que tout le monde comprenne et qu'il n'y ait pas de alors, le mec est dans le turfu, tu vois.
Alors aujourd'hui, vu qu'on a du temps, on va rentrer dans le détail un peu de tout ça. Et si tu veux bien, je veux bien qu'on commence par YouTube. Moi j'ai regardé, ça fait à peu près 6 ans, je crois, que tu œuvres sur YouTube, tu publies du contenu. Et dès le début, bah il était question effectivement de voyage, de matos, photos, vidéos, etc. Un mix entre les deux. Et comme tu es un ancien maintenant du game, du YouTube game, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui a le plus changé selon toi sur la plateforme en 6 ans? Tu as vu les évolutions, c'est quoi ce qui est le plus marquant pour toi?
Et c'est vrai que ça a vachement changé. En fait, il y a eu des grosses évolutions déjà en termes d'algorithme.
Ouais.
Tu vois, avant, c'était vachement important de mettre des tags, de travailler ton SEO, etc. Maintenant, tu es sur quelque chose quand même beaucoup plus viral. Et l'objectif, c'est de se placer sur des recommandations, donc c'est sur des sujets qui ont déjà été abordés, etc. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que comme tous les réseaux, personne ne comprend comment ça marche et ça fait chier parce que là en ce moment, à titre perso, et puis même on est tous un peu pareil dans cette thématique voyage. Tu vois, je pense aux copains Charles Schill, Olivier Schmitt, des gens comme ça. On est tous autour des 100 000 abonnés et en ce moment on fait pas de vues du tout, quoi. On continue à faire ce qu'on fait, mais il y a des virages qui sont faits par la marque. Enfin, par YouTube, et on a un peu de mal à comprendre tout ça, donc faut s'adapter. En plus de ça, bah t'as le contenu court qui prend vachement d'importance. Enfin, moi, tu vois, dans mon quotidien. Et puis en plus, niveau hype, je suis beaucoup plus hypé par créer du contenu court en ce moment que créer du contenu long.
Ah ben ça, on va en parler, et parce que ça m'intrigue.
Ouais, c'est hyper compliqué. Mais en fait, YouTube a vraiment évolué. T'as des gens qui arrivent comme ça dans le game et qui percent de ouf parce que ils apportent quelque chose de nouveau, créatif. Comme tu le dis, je pense que vu que je suis dans le game depuis un paquet d'années maintenant, comme mes potes, je pense qu'on a un peu de mal à se renouveler. Et je trouve que je me renouvelle plus en ayant une contrainte. Et la contrainte, c'est justement aujourd'hui les formats courts. Réussir à capter une nouvelle audience avec des formats courts, tu vois.
Ouais, c'est vrai que ça a chamboulé le truc. On va parler d'Insta, on va parler de TikTok, on va parler de ces formats courts, effectivement, où tu produis beaucoup de trucs aussi, avec une ligne éditoriale différente. Et ça aussi, on va en parler. Sur YouTube, aujourd'hui, ce que tu proposes, c'est du vlog, en fait. C'est des formats filmés première personne de Julien dans ses aventures. C'est un peu ta signature. Est-ce que toi, tu bosses en équipe ou est-ce que tu bosses seul? Comment est-ce que tu produis ton contenu vidéo?
En fait, j'ai deux sociétés. J'en ai une où je fais que de l'influence, que @ Julien Favreau, si tu veux, donc du YouTube, du Insta, éventuellement du TikTok, c'est déjà arrivé. Et une boîte de prod un peu plus classique, un peu plus tradie, où je fais de la pub pour les marques, photos et vidéos. Donc aujourd'hui, si tu veux, sur la société boîte de prod, donc je bosse avec des cadreurs et des monteurs.
Ok.
Moi, je suis à la fois réal. Enfin, je fais un peu tout. Je fais un peu tout là-dedans, mais.
Mais là, on ne voit pas forcément à l'écran. C'est ça. Tu viens produire du contenu pour le compte d'une marque.
C'est ça. Ouais.
D'accord.
Ouais, okay. C'est ça. Et à 90% du temps, c'est des marques qui ont découvert mon taf via. Les réseaux, en fait.
Ouais, bien
via
sûr.
Julien Favreau sur Insta, sur YouTube et compagnie.
Et qui, à un moment donné, se rapproche vers toi en disant, on a un sujet de création de contenu, et toi, tu dis, ça passe pas par moi qui incarne la marque, mais plutôt, on va la raconter, et pour ça, je me positionne comme réal, avec mon équipe, on vient, on produit de l'image.
Ouais, c'est ça, ouais. En fait, si tu veux, la boîte, c'est un peu le dérivé de mon cerveau que je mets à disposition des marques. Toujours avec cette signature qui me caractérise, storytelling et émotion. C'est deux choses qui permettent de capter une audience et je fais hyper attention à ça. Et je pense que tu le sais, t'es entrepreneur, t'as des salariés. Ce qui est hyper compliqué, c'est d'accorder ta confiance et de trouver des gens qui sont câblés comme toi et qui réfléchissent comme toi. Et c'est hyper compliqué, tu vois. Genre, j'ai bossé avec des agents il y a quelques temps. J'ai pas forcément été hypé par le truc, donc ça m'a un peu démotivé de bosser avec d'autres gens. Là, ça se passe plutôt bien parce que j'ai des gens de confiance, mais c'est vrai que là, enfin, je bosse avec des gens pour la société, enfin pour la boîte de prod, parce que enfin c'est obligatoire sinon j'ai pas de temps, mais sur toute la partie influence, création de contenu, là je suis tout seul.
Ok, donc t'as ces deux t'as...
Mais
vas-y, pardon.
Là, je suis en train de rechercher quelqu'un pour m'accompagner sur YouTube parce que je m'en sors plus. Enfin, j'ai plus de temps entre les voyages et compagnie. Enfin, là, tu vois, genre les 12 derniers mois, c'est 8 mois de l'année à l'étranger.
Ouais, c'est ça, c'est énorme. Ouais.
Parce que, c'est costaud, quoi.
Oui, parce que tu voyages beaucoup. C'est quand même la promesse, c'est de ramener du contenu d'exception. Donc du coup, bah, il faut y aller. Hein, faut le vivre ce contenu-là aussi, ces expériences. Et puis aujourd'hui, si j'entends bien, hein, ce qu'on trouve sur YouTube, c'est du contenu que toi tu filmes, que tu montes. Hein, donc c'est un temps considérable. À côté de ça, une autre activité pro qui est une activité d'agence où tu produis du contenu pour les marques. Ouais, tu dois être bien occupé. Et j'ai vu que depuis quelques mois, tu t'es lancé d'ailleurs un challenge sur YouTube. Hein, ça fait quoi? Je pense une année. À peu près que t'es là-dedans. 2 ans pour faire les 50 trucs que tu souhaites faire avant de crever. Hein. C'est ça, si je résume. Une sorte de bucket
super
list.
Glauque, super.
T'en es où de ta bucket list aujourd'hui? Parce que t'as fait des trucs de ouf, là. T'en es où et qu'est-ce qu'il reste à faire?
Bah, en fait, en termes de storytelling, tu vois, genre, réaliser des choses un peu inédites, c'est le truc qui me définit depuis mes débuts sur YouTube. Ouais. Depuis 6 ans. Et alors je l'ai plus marketé si tu veux pour YouTube, donc ça fait 2 ans que j'ai lancé le projet Bucket pratiquement en plein Covid en fait. Super.
Bien vu.
Mais en fait si tu veux tu vois j'ai fait beaucoup de choses avec l'armée, donc j'ai fait 2 fois le 14 juillet, une fois dans un char, une fois dans un hélico, j'ai fait la marine, donc passer plusieurs jours dans une frégate à tirer, enfin à faire des essais balistiques et compagnie. J'ai fait beaucoup de choses au milieu, enfin autour du sport. Immersion 24 heures du Mans, pour la route du Rhum côté voile, autour de France, etc. Donc j'ai toujours fait des trucs un peu fous. Et en fait, ouais, ce que tu dis, donc 2 ans pour faire la bucket list, c'est plus du marketing.
J'entends bien, c'est ton storytelling.
C'est du storytelling, c'est, ouais. Mais ouais, là j'essaye depuis justement 1 an et demi, 2 ans, de faire en sorte que chaque vidéo sur YouTube réponde à cette promesse de réaliser quelque chose, d'apprendre quelque chose. Et là, on n'est pas trop mal. Hein. On commence à faire des trucs bien. Et il y a une montée en puissance. En fait, ce que je trouve ouf dans nos métiers, dans Internet, etc., c'est que on est beaucoup à faire ça. On fait des choses par passion. On commence à les partager par passion. Et petit à petit, on est contacté pour faire des projets autour de notre passion. Donc déjà, t'as l'impression de jamais travailler. Et après, les projets qui s'enchaînent, ils sont toujours de plus en plus waouh. Et tu vois, donc tu disais, ça fait 10 ans que je fais ça, donc jeune carrière pour ma part. Et en fait, il y a des points de pivot hyper, comment dire, hyper, hyper intéressants qui ont complètement transformé ce que je fais et où est-ce que j'en suis, enfin, et la direction que je prends, si tu veux.
Genre, dernier point de pivot, par exemple, c'est quoi?
Le dernier point de pivot, c'est le pôle Nord, là.
Ok.
J'ai commencé une aventure polaire. Donc, tu vois, là, en septembre 2021, j'ai commencé à bosser avec Ponant, qui est une société qui a des bateaux de croisière. Donc pas les gros bateaux à 10 000 personnes, mais des bateaux à 200 passagers sur un segment très haut de gamme. Ils ont lancé un nouveau bateau qui s'appelle le Commandant Charcot, qui est un navire de haute exploration polaire qui va dans les pôles, en gros, qui amène des passagers au pôle Nord et en Antarctique. C'est le seul bateau à faire ça dans le monde. Et pour le lancement de ce bateau, l'année dernière, on m'a proposé de faire la croisière inaugurale sans passagers, juste avec des ingénieurs, le bord et compagnie, pour aller au pôle Nord. Donc on a passé 15 jours en pleine banquise pour aller à 90 degrés nord. Et ça, en fait, j'ai pété un plomb parce que premier truc, t'avais un défi, c'était est-ce que le bateau est capable d'aller là-bas. Deuxième défi, c'était on est le premier bateau français à aller au pôle Nord. Donc il y avait énormément d'émotions et une belle histoire aussi. Et d'un point de vue humain, en fait, ça m'a fait revoir un petit peu ce pourquoi je crée du contenu. Là, c'était hyper puissant. Là, j'étais là pour créer des visuels publicitaires pour Ponant autour d'une aventure extraordinaire. Mais dans le cadre de ce brief, je devais shooter à la fois les paysages, la faune, les ours polaires, les phoques, etc. Et en fait, t'es entouré de gens qui pèsent, des scientifiques qui s'y connaissent sur des règlements climatiques, qui sont là pour relever toutes les températures de l'océan à telle fréquence. T'es là avec des naturalistes, le mec qui connaît parfaitement la banquise, etc. Et on était aussi avec des Inuits groenlandais. Et là, tout ça, genre, ça fait une sorte de boule qui te pète à la gueule. Et là, ça a été une claque. Et enfin, après, se sont enchaînés l'Antarctique, le Groenland et d'autres choses. Et là, en fait, j'ai vraiment pris du recul sur comment je crée du contenu et pourquoi, tu vois. Et là, dans ce que je vise dans ces prochaines années, c'est justement aller dans des coins reculés, documenter tout ça et essayer d'apporter un peu plus de sens à tout ce que je fais.
Donc là, est-ce qu'on pourrait parler d'une sorte de pivot éditorial vers l'exploration un petit peu, en tout cas vers
là,
l'inconnu?
On est sur un pivot en tout point.
Ouais,
en tout
okay.
point.
Ouais.
D'un point de vue édito, d'un point de vue créatif, d'un point de vue personnel, introspection. Enfin, te retrouver sans connexion pendant 15 jours sur le toit du monde, dans un désert de glace, où t'es entre guillemets un peu livré à toi-même, tu rencontres des gens passionnés, passionnants.
Et comment on fait pour raconter ces histoires-là? Comment on fait pour les raconter sur YouTube? Comment tu fais pour faire un vlog, pour faire une raconter une histoire qui accroche les gens autour de ça, hein? Là, tu m'en parles, t'es super ému de me raconter ça. Mais comment on fait pour le raconter en image? C'est quoi la narration? Est-ce qu'il y a des mécaniques que tu commences à toucher du doigt sur comment amener un sujet, en fait?
Hyper intéressant. Alors, je pense qu'il y a toute une partie, on est tous un peu des artistes. Quand tu fais de la vidéo, quand tu fais de la photo, quand tu fais un podcast, n'importe quoi. Et tu sais, des fois, tu fais les choses un peu naturellement. Et aujourd'hui, je me pose pas trop de questions. Je le fais vraiment simplement. Si je prends un peu de recul, c'est vrai qu'il y a une formule un peu magique. La formule magique, c'est... t'as des standards. Le standard du storytelling, c'est « il était une fois ». Donc ça va placer ton histoire. C'est ce qu'on peut, enfin on peut le comparer à une introduction de vidéo. Tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Donc ton histoire commence, on te retrouve je sais pas où, et il se passe quelque chose qui va amener l'histoire du coup. Donc tu sais, c'est comme un peu une courbe des émotions. Tu commences, t'es positif, il se passe ce truc, t'arrives dans le truc négatif, et la quête, ça va être de résoudre cette chose. Donc, tu vas essayer de repasser dans le positif. Et c'est hyper intéressant parce que sur chaque chose de ta life, donc moi, je fais du vlog, donc en fait, c'est ma vie qui permet de raconter des histoires. T'essayes en fait de trouver des situations à problème et d'essayer de résoudre ce problème, tu vois. Genre, y a un mec qui m'inspire de ouf, qui m'a inspiré en tout cas de ouf, c'est Casey Neistat.
Ouais, la légende du vlog, bien sûr.
La légende du vlog américaine. Ouais.
Et on vous met en note de cet épisode, hein, évidemment, yes. Le lien direct vers Casey, si vous voulez
pas,
voir
il va
le
falloir
contenu,
genre le connaître. C'est
à étudier de très près. Ouais.
À étudier de très près. Et en 2016, alors lui, c'était, il était dans sa période de ouf. Il s'était mis le défi de faire, je crois qu'il a fait 2 ans de vlog quotidien. Donc 10-15 minutes de vlog tous les jours. Enfin, c'est incroyable. Et tu vois, par exemple, d'un point de vue storytelling, il y a un moment, il reçoit un drone de Parrot, le Bebop 2. Bon, drone que j'ai usé etc.
Et
cassé, abusé dans tous les sens du terme. Il reçoit ce drone à New York. Donc Casey, il est un peu fou. Il monte sur le toit d'un building. Il le lance. Le drone part en lévitation. Et là, je ne sais pas s'il y avait trop d'interférences ou autre, le drone se met en erreur système. Donc les moteurs ne s'arrêtent pas, mais il reste en lévitation au même endroit. Et ça dure tout l'épisode. Donc pendant tout l'épisode, il est là, il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas, il essaye de trouver une solution, il essaye de prendre une chaise, de le prendre, mais sauf que il est à 200 mètres du haut, le drone est à 5 mètres de lui, et il arrive à rien. La fin de l'épisode, de 10 minutes, c'est, tu vois le drone qui a plus de batterie, et qui descend doucement, 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 sur un building à côté. Donc là, il donne rendez-vous le lendemain, et le lendemain, l'épisode, c'est comment résoudre ce problème, aller récupérer le drone. Parce que, bon, il perd un drone, il comprend pas ce qui se passe, et compagnie. Du coup, pendant tout l'épisode, tu le vois aller dans les magasins de bricolage en train d'essayer différentes choses, et il crante, en fait, son message. Première chose, il va dans le bâtiment, il essaye d'ouvrir, ça marche pas.
Oui, c'est la quête, on suit la quête. Ouais, donc la quête, elle a des étapes, elle a des jalons, etc., jusqu'à une résolution. Et en fait, ce que tu nous expliques, c'est que parfois, la quête, elle a pas besoin d'être grandiloquente. Quand je produis du contenu, je peux partir d'un détail, une anecdote, hein, pour en faire un rebondissement et derrière une quête pour trouver une solution, hein, c'est ça. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est comme tout. Alors, tu vois, la quête, par exemple, là, pour cette aventure polaire au pôle Nord, c'était simple. C'était, moi, c'est ma première fois au pôle Nord. Donc, il y a plein de choses à raconter. Il y a plein de craintes à partager aussi. Et dans une histoire, parfois il se passe rien, tu vois, genre imaginons je vais raconter une histoire autour de ce podcast, il se passe rien, enfin tu vois, c'est ok, je découvre vos locaux qui sont super stylés,
il se passe rien pour l'instant fois. Attention, je peux créer un rebondissement d'un moment à l'autre,
c'est vrai. Mais s'il se passe rien, en fait c'est ton storytelling qui va amener l'histoire qui va capter l'attention. Donc mon storytelling, ça peut être mes craintes, ça peut être des peurs, ça peut être des choses que j'ai vues avant ou que je vais voir après, et c'est comme ça que tu vas amener ton histoire.
Et c'est là où effectivement, quand on est créateur de contenu comme toi, quand on est aussi influenceur, quand on joue de la face caméra, hein, et ben effectivement on se sert aussi de ses émotions pour raconter son histoire. Et du coup, c'est un peu, pour reboucler un peu sur ce que tu disais au début, c'est peut-être ce qui complexifie aussi le métier de l'influenceur, du créateur de contenu, c'est qu'il s'utilise lui-même comme personnage de ses quêtes, et du coup il est obligé de donner un petit peu de vrai dans cette histoire, et parfois il se met en porte-à-faux avec ses communautés, avec ses potes, etc. Est-ce qu'il est obligé de raconter sa vraie vie, hein?
Ouais, c'est sûr. Bah, t'as la partie non visible et la partie visible. La partie non visible, c'est avec tes potes, ta famille et compagnie. Et ouais, il y a des points de divergence forcément, enfin comme tout le monde, tu vois. À la différence près que tu partages tout ce que tu fais, donc tu sais, genre à chaque fois que tu vois des gens, c'est j'ai vu que tu faisais ça, et puis ça peut amener le débat. Et c'est vrai que quand tu t'exposes aussi sur Internet, il peut y avoir des sujets qui divisent.
Eh bien sûr.
Notamment, le fait que je voyage beaucoup, aujourd'hui, c'est problématique pour certaines personnes.
La question, je l'ai quelque part dans mes notes. Mais si tu veux, on en parle tout de suite. Effectivement, aujourd'hui, tu passes une grande partie de ton année à voyager, à parcourir le monde, etc. Et ben oui, pour ça, du coup, t'as un bilan carbone qui est assez moyen.
Il est pas ouf, mon bilan carbone.
Voilà.
Il est pas ouf.
Comment tu vis, toi, avec ça? Parce que à côté, ceux qui te suivent le savent, t'as des engagements forts, etc., sur plein d'autres sujets. Comment on vit un peu cette dichotomie entre, je ramène du contenu, etc., pour faire de l'entertainment, donc je crame du dioxyde, et puis de l'autre côté, j'ai mes convictions.
C'est hyper délicat. En fait, tu vois, ma manière de consommer le voyage, elle a toujours été sur... alors, à l'époque de Pee-wee, il y a ça, 9 ans, 6 ans, 7 ans, c'était je reste en Europe et je bouge beaucoup en Europe, avec des marques, avec des opérations, des lancements... de marque automobile ou autre. Et petit à petit, en fait, je suis passé de blogueur à youtubeur, de youtubeur à photographe, et j'ai appris en fait le métier de l'image. Et mon kiff, ça a toujours été de voyager et de documenter des destinations, d'aller à la rencontre de personnes et d'imaginer des histoires toujours plus folles. Toujours en ayant cette envie de découvrir le monde qui est exceptionnel. Donc en fait aujourd'hui, tu vois, ça fait depuis des années que je mets tout en place pour arriver au point où je suis actuellement, de vivre du voyage et de voyages qui ont du sens pour moi et qui me font vraiment kiffer au plus haut point, tu vois, genre il y a toujours des choses qui se passent partout dans le monde, genre en Inde, le Holi Festival, qui est la fête des couleurs, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, je l'ai fait l'année du Covid. Ça se raconte, ça se documente, et c'est hyper puissant de pouvoir reconnecter avec d'autres populations, enfin d'autres gens, d'autres choses. C'est bien de rester en France, etc., mais quand tu voyages, enfin, t'as une ouverture sur le monde qui est complètement incroyable. Mais c'est vrai que le plus gros de mon chiffre d'affaires, c'est le voyage dans des destinations reculées. Et en fait, je le fais parce que c'est ma source principale de revenus et de kiff.
Allez, on enchaîne si tu veux bien sur YouTube, parce qu'on était à parler de YouTube. J'ai été étonné en constatant sur ton compte YouTube qu'il y a que des formats longs, en fait. Il n'y a pas aujourd'hui de format 9-16. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce format short qui est proposé aujourd'hui au cœur de YouTube? Comment tu vois les choses?
Bah, j'ai vraiment du mal avec les shorts. Pour plusieurs raisons, on a vraiment l'impression, enfin je pense que c'est pareil, mais on a vraiment l'impression que c'est un copier-coller de tout ce que font les autres, comme les réels sur Insta. TikTok a lancé la machine, TikTok a fixé les règles du jeu, tout le monde copie et puis c'est chiant. Donc t'imagines en fait un format pour un support que tu copies-colles de partout, ça fait chier, tu vois. Et ça m'embête vraiment.
Parce qu'aujourd'hui, premier point, si on regarde les chaînes YouTube aujourd'hui, elles sont en train de se remplir en overdose de ce format short, ouais, avec des perfs qui aujourd'hui sont vraiment kiffantes. Hein. Parfois plus de difficultés sur les formats longs, je trouve.
Bah ça dépend. Il y a un peu tout. Il y a des shorts qui cartonnent. Il y en a d'autres qui font un bide complet. Là, j'ai des potes qui se sont mis un peu. Ça décolle pas plus que ça et en fait moi j'aime bien avoir une sorte de feed, tu vois, stylé. Bon, c'est un peu mon côté photographe DA.
Et t'aimes pas avoir ces petits bouts de machin bizarre au milieu.
J'aime pas
avoir,
ouais, je comprends. Ces trucs chelous, genre tu vas sur ma chaîne YouTube, tu comprends plus ou moins ce que je fais, tu vois. Là avec les shorts, ça veut dire ramener un peu plus de tu vois, si je reprends ce que je fais sur TikTok ou sur Insta en réel, c'est plus de l'apprentissage ou du storytelling, mais on n'est pas dans ce côté, on réalise des défis avec la bucket list, tu vois.
Ouais.
Et ce que j'aimais bien avant avec les réseaux, en tout cas, allez, entre 2015 et 2020, c'était que chaque réseau avait sa spécificité, tu vois. TikTok, c'était les formats courts, enfin très courts en vidéo. Insta, c'était la photo. YouTube, c'était les formats longs. Twitch, c'était le live. Et aujourd'hui, t'as l'impression que tout le monde fait pareil et c'est hyper compliqué d'un point de vue créateur,
ouais, je comprends,
de s'adapter et de performer là-dedans, tu vois.
Mais moi ce que j'ai vu, c'est que tu as fait des choix éditoriaux d'une plateforme à l'autre et tu as l'air d'y tenir assez fort. Parce que là, si on bascule du côté d'Instagram, là, tu travailles un angle éditorial qui est différent de celui que tu as sur YouTube. Tu parles de voyage, tu racontes tes trips au Groenland, en Californie, en Polynésie, etc. Les images sont ouf, les contenus sont splendides. Et il y a pas mal aussi de contenus tutoriels en photo, des sortes de petites astuces que tu donnes à l'attention des photographes, etc. Tout ça au format Reel. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'avec le nouvel algorithme d'Instagram et aussi l'omniprésence du format vidéo Reel, on voit beaucoup de photographes aujourd'hui qui se plaignent, qui disent c'est plus possible d'exister sur Instagram, il faut faire du Reel, et moi je fais de la photo statique. Moi j'ai l'impression que toi, tu as trouvé un truc pour craquer tout ça. T'en penses quoi, toi, de ce format-là? Est-ce qu'on peut exister encore en tant que photographe sur Instagram?
Ouais, là tu mets le point sur un truc méga important qui fait débat dans mon game, dans le game de la photo. Il y a eu un profond changement et Insta a posé ses balls. Ils ont dit bon bah la photo c'est mort, on passe à la vidéo. Et en fait on est tous passés dans
enfin ils l'ont pas dit, mais ils se sont fait suffisamment comprendre, je crois.
Je pense qu'ils se sont fait comprendre.
Voilà,
clairement. On a tous eu tous, donc c'est les créateurs, enfin pratiquement tous eu de longues semaines où on était là en mode on comprenait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi le futur, on est largué. Moi, comment ça s'est véhiculé, c'était que bah, pendant 2 mois, j'ai rien publié pratiquement sur Insta. Bon, après, il y a eu le Groenland, la Polynésie et compagnie, mais pendant 2 mois, j'avais rien, ça m'est jamais arrivé. Perte de motivation, perte d'envie, plus rien.
Tu t'es dit, ok, la photo c'est mort, bah j'oublie.
Ouais, non,
mais. Je vais me mettre sur 500px et puis voilà, c'est ça.
Putain, c'est vieux ça. C'est vieux. Non, mais c'était hyper compliqué. T'es obligé de faire une introspection vraiment puissante. Et d'un autre côté, ce qui est très, très, très compliqué, c'est que t'as l'impression que tout le monde fait pareil sur Insta. T'as une musique qui ambiance. T'as un backstage et t'as des photos, ou t'as que des photos avec un rythme, papa, et t'as que des photos. Et tout le monde fait pareil, tu vois. Et en fait, moi, j'ai repensé mon contenu. Ça a mis du temps, mais en gros, je suis parti en Polynésie, en Californie, là, cet été. J'ai fait balle de contenu. Enfin, j'ai vécu des belles histoires et compagnie. Et je me suis forcé à faire des backstage de ce que je faisais, un peu plus qu'avant. Et en revenant en août, je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'apporter quelque chose en plus dans ce qui se fait. Donc, essayer de créer un format qui se fait pas trop, qui est le format parler, où j'essaie d'éduquer, d'informer ou de faire rêver. Et c'est là, en fait, bah, je me suis dit, au lieu de faire des montages à la con avec des belles photos, en fait, je suis hyper fier du contenu que je produis, tu vois. Des photos que je fais. J'ai un style très marqué, très, très identifié. Et ma fierté, c'est de le partager et d'inspirer des gens ou que les gens puissent se poser des questions dessus. Et j'estime que mes photos, ça peut pas faire une demi-seconde, tu vois, parce que t'as aucun feeling, aucune émotion qui passe.
Et du coup, ce que tu fais, c'est tu mets une voix off par-dessus. C'est ça, tu enregistres ta voix et tu la mets par-dessus ta photo.
Plus ou moins, l'idée de fond, c'est plus ou moins de cette photo, on va raconter les coulisses ou ce qui s'est passé autour, justement pour appuyer le message derrière. Tu vois, genre, je sais pas, je fais une photo d'un ours polaire.
Ouais, justement, j'allais venir, parce que je l'ai regardé juste avant que t'arrives. Ouais. Et je me suis dit, ouais, c'est exactement ça, ça c'est bien
celui
vu.
Avec le...
Ouais, l'énorme objectif à 20 000 balles, là. Ouais. C'est ça.
Alors là, typiquement, je me suis posé la question, je veux parler d'ours polaire, je veux montrer que je suis allé shooter des ours au pôle Nord, ça arrive jamais, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Donc quel message je mets en avant pour parler de ça. Donc là, mon angle d'attaque, je suis aussi dans le « je teste », tu vois, en ce moment.
Bien sûr.
Donc je teste beaucoup. Et là, mon angle d'attaque, je me suis dit, et c'était limite une prise de risque, c'est sur ce réel, j'ai des images de fous, j'ai des photos de fous d'ours. Comment je fais pour capter l'attention les 3 premières secondes? Bah, j'ai commencé le réel. En gros, c'est « devine le prix de cet objectif ». Donc là, les gens sont en mode « on
cher.
Sait pas, on voit la taille du bazooka.
Ouais, c'est
on est,
ça.
On est clairement sur un bazooka. Et j'annonce mon prix assez rapidement. C'est un parti pris même d'un point de vue storytelling parce que j'aurais pu l'annoncer à la fin, tu vois. Mais en fait, avant d'annoncer le prix, j'ai bien fait attention à dire pourquoi j'avais cet objectif pour pas paraître comme le gars qui a ce qu'il veut et qui fait ce qu'il veut, voilà. Mais l'objectif, c'était vraiment, sans mauvais jeu de mots, l'objectif, c'était vraiment montrer que je suis parti au pôle Nord pour shooter des ours polaires. Ouais, ouais. Et là, j'ai annoncé
donc,
que le
donc
prix,
t'as,
c'était
t'as ça. Pris, t'as pris un angle exprès qui est assez éloigné du sujet final, qui est de dire, hey, regardez, je suis allé au pôle Nord, j'ai fait des images d'ours qui sont hallucinantes, et t'es parti de ton objectif en te disant, ça va être peut-être une catch plus puissante à essayer sur mes audiences, et puis après, je vais pouvoir raconter mon histoire.
Ouais.
Est-ce que ça, tu l'écris avant? Est-ce que ça, aujourd'hui...
Ouais, j'écris,
ouais. Ouais, donc tu fais un petit storyboard.
Les formats courts, je les écris.
Pas, moins que les formats longs,
les
c'est
formats
ça
longs, je les écris
ah, c'est marrant ça.
C'est marrant.
Est-ce
c'est
que
marrant.
C'est la taille du format qui te contraint à du coup être beaucoup plus efficace et ouais. Tu te dis là j'ai pas le choix, faut.
En fait, j'ai un poil de chat dans le nez, super.
je t'en prie, tu veux qu'on t'amène un mouchoir ou quelque chose?
Non, non, okay. Super, merci. Ouais, non, les formats courts, je les écris. En fait, t'es obligé d'être puissant. Il y a beaucoup de formats courts que j'ai fait au début que j'écrivais pas. Et je tourne toujours autour des 20 000 vues. Et je me suis rendu compte que quand je commençais à les écrire un peu plus, et à réfléchir à comment je catch un peu l'attention, ça marche un peu plus. Là, typiquement, ce réel, sur TikTok, il a fait 500 000 vues. J'ai gagné 5 000 abonnés en quelques jours.
Ouais.
Donc, puissant, je le mets sur Insta. Le truc fait 50 000 vues en 2 jours. Je me dis, bon, bah, dommage. Et là, en fait, tu vois, ça fait depuis 2 semaines qu'il est reparti. Et là, on est à 250 000 vues.
Qu'il est reparti sur Insta?
Ouais.
Ouais, donc on est.
Je suis content parce que sur Insta, ça fait depuis, allez, depuis 2 mois là que je partage des réels, 3-4 réels par semaine. Et ça décolle pas, j'étais toujours à 43 000 et ça bougeait pas. Et là, depuis ce réel, j'ai pris 2000 abonnés, tu vois, en une semaine.
Est-ce que t'as l'impression.
Et c'est hyper puissant, en fait.
Est-ce que t'as l'impression que cet algorithme-là, que les plateformes sont en train de nous imposer, qui sort de chez TikTok, qui arrive maintenant sur Instagram, est-ce que t'as l'impression qu'il porte en lui une durée de vie, des contenus, l'opportunité que les contenus soient un peu plus evergreen, ressortent? Là où aujourd'hui, précédemment, hein, globalement, quand tu postais une belle photo dans ta grille, franchement, au bout de 2 jours, elle ressortait jamais, c'était mort. Là, il semblerait qu'il y ait l'opportunité qu'il y ait des contenus qui reviennent, comme tu l'as vécu, 3 semaines, 1 mois après, boum, qui d'un coup ont une deuxième vie. Est-ce que ça, toi, tu le constates?
Ouais, je le constate à mort. En fait, alors, le fait que Insta abandonne la photo, ça me fait chier au plus haut point. Vraiment, ça me. Enfin, ça m'a dépité au début en me disant, bah, je prenais beaucoup de plaisir à shooter des photos, limite dans le but de les partager sur Insta. Donc, quand on t'enlève cette carotte, t'es un peu perdu. Donc, je t'ai dit, j'ai eu cette période où j'étais pas bien. Par contre, le truc qui m'excite à mort, c'est que Insta a redéfini les règles du jeu et les réels peuvent te permettre de capter de nouvelles audiences. Et les réels sont vachement mis en avant auprès de gens qui ne te connaissent pas. Là, tu vois, genre, je regarde mes stats, c'est genre, tu dois être à 10% de ma communauté qui regarde, par exemple, enfin, on va le faire en live.
Allez, il sort ses stats. Regardez, il met tout sur la table.
Non, parce que c'est hyper intéressant. J'ai regardé ça il y a genre 2 jours et je me suis dit, waouh, putain, la puissance des réels. Et justement, c'est le fait de redéfinir un peu les règles du jeu qui challenge. Et je trouve ça, enfin, trop cool, quoi. Trop cool. Donc, ouais, en fait, le fait que Insta ait redéfini tout ça, ça te force à créer plus. À écrire plus et à essayer de te démarquer. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus hypé en ce moment par les formats courts que par les formats longs. Parce qu'il y a un peu cette quête, tu vois.
Toi, ce que tu dis aux photographes, c'est quoi? C'est arrêter de flipper, allez-y, expérimentez autour de ce format-là. Bien sûr, vous pouvez continuer à être photographe sur Instagram. Par contre, il s'agit d'accepter de devenir des storytellers plus que des photographes et de raconter aussi d'où vient votre image, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle veut dire, etc.
Ouais, de ouf. Mais je pense que le truc le plus puissant pour tous les. Pour tous les créateurs qui nous écoutent, c'est chaque réel que tu publies, c'est une opportunité de plus ou moins faire le buzz. Donc ça veut dire que si tu te dis « je publie 3 réels par semaine », ça veut dire que tu as 3 balles dans ton chargeur et à tout moment, il y en a une qui peut buzzer. Moi, tu vois, genre ça fait 2 mois que je fais des contenus, il n'y en a aucun qui a buzzé. Là, le premier qui buzz, j'ai les stats sous les yeux, ça fait un peu péter mon compte parce que ça fait genre depuis plusieurs mois que je suis bloqué à 43 000. Là, putain, j'ai pris 2000 abonnés. Je prends, je sais pas, 150 abonnés par jour. Ça fait du bien.
Et tu les prends juste sur ce reel.
Je suis à 45 000. Ouais, parce que je suis à 45 000. Donc là, tu vois, genre, je suis dans mes stats. Follower, non-follower, en fonction de la couverture. Donc, sur le dernier mois, je suis à... Non, pas le dernier mois. Bon, je sais pas. Parce que sinon, ça me paraît pas beaucoup, mais ça doit être les... Je sais pas, couverture. Je suis à 30 000 followers qui voient contre 270 000 qui sont non-followers.
Ouais. Donc l'opportunité de conquête, elle est là, elle est sur ce format, quoi. Ouais, je comprends. Okay.
Et même, tu vois, genre, la couverture des contenus, regarde un peu, enfin, c'est fou. C'est fou.
Oh, j'éplucherai après avec plaisir tes stats, mais c'est vrai, bien sûr, énorme. Là, ce qu'il est en train de me montrer, ses stats de non-followers, la barre blanche, elle est énorme.
Ça explose tout. Donc c'est pour ça, c'est hyper important de faire des réels et de prendre la tangente. Chose qu'il faudrait que je fasse sur YouTube, si je prends un peu de recul. Non, mais il faut que je le fasse. Et j'aimerais bien tester de publier les formats que je publie sur Insta, sur YouTube. Même si j'y crois pas trop, tu vois.
Mais juste parce que je les ai regardés tes tutoriels là sur qui sont sur Insta et TikTok, format Reel. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Hein. J'ai vu, t'expliques notamment comment retoucher. J'ai vu cette vidéo de photo sous-marine qui est super belle, là où en gros t'es en plongée sous-marine. Et puis il y a une palme, on voit une autre palme de quelqu'un que t'as gommé. Et t'expliques comment tu l'as fait. Et visiblement, c'est via une application mobile. Alors je me suis posé la question, est-ce que Julien Fabreau retouche ses contenus photos directement en mobile? C'est quoi le workflow aujourd'hui sur toi, sur ton travail photo?
Le workflow, alors pour la partie photo. C'est simple.
Ça, c'était pour la démo ou alors vraiment tu fais de la retouche directement? Ouais.
En fait, j'ai appris à retoucher des photos sur mon tel.
Ok,
sur Lightroom mobile. Okay. Ouais. Et aujourd'hui, alors c'est simple. Je suis un Apple addict. Ça se voit pas forcément, mais je suis un Apple addict. Du coup, j'utilise vraiment l'écosystème Apple. Mon Mac, c'est le hub, c'est le point, enfin c'est le noyau dur du système, si tu veux. Donc, je suis en shooting, je rentre chez moi. Je mets ma SD dans le bazar. J'importe toutes les photos que je veux sur Lightroom classique. Ouais. Là, donc, je paye un abonnement à un cloud où j'ai 20 gigas, 1 tera ou 2 tera dans le cloud. Donc, tout est dans le cloud. Une fois que c'est importé, ça part de partout. Donc, je retrouve ces photos importées sur mon tel et sur l'iPad. Donc, ça veut dire que quand je suis chez moi à poser, je retouche mes photos sur mon Mac. Quand je suis en déplacement, posé à l'hôtel ou autre, c'est sur iPad. La retouche sur iPad avec le stylet, c'est un délire, c'est incroyable.
Okay.
Et quand je suis dans les transports, ce qui arrive très très souvent, c'est sur mon tel. Et en fait, ce qui est puissant, c'est qu'à chaque fois que tu fais une retouche,
ouais, tout revient au même endroit.
Tout est synchronisé. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que je peux commencer une retouche sur mon Mac et la finir sur mon tel en étant dans le train, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai que ouais, j'ai des grosses grosses sessions. À chaque fois que je prends le train, c'est grosse session de retouche sur le tel. Et en fait, tu gardes. Enfin, il y a tu.
Ok,
tu...
non, mais je te pose la question parce que je vais avoir une conversation avec mes équipes créa qui me demandent des énormes écrans et tout. Non, bah les gars, faites ça dans un mobile. Julien, il fait comme ça.
Ouais. Non, mais en plus, tu perds pas en qualité, tu vois. Alors, ouais. T'as des aperçus dynamiques sur l'iPad et sur l'iPhone. Par contre, vu que c'est ta retouche qui est dans le cloud, la retouche est appliquée sur Lightroom Classic.
Ouais, bien
après,
sûr,
tu vois,
je comprends.
Quand
ouais,
tu exportes ta photo 45 millions de pixels et qui fait 200 mégas, un peu moins, elle est nickel, quoi, tu vois. Donc,
Julien, j'ai cru comprendre que tu t'étais mis au running de façon assez sérieuse.
Ouais.
Et cette info-là, je l'ai eu dans tes stories. Je l'ai pas eu dans le reste de ton contenu Instagram. Je l'ai pas eu dans tes posts. Je l'ai pas eu dans tes reels. Je l'ai eu que dans tes stories. Et du coup, me vient une question. C'est comment est-ce que tu décides de ta ligne éditoriale? De ce que tu souhaites mettre dans les stories, ce que tu souhaites mettre dans les posts. Je pense qu'il y a un paquet de CM, qui aujourd'hui se pose la question de tout dire partout. Comment toi tu prends des décisions? Pourquoi par exemple le sujet running, il est pas dans le reste de ton contenu? Il est exclusivement dans tes stories. Comment tu décides de ça?
En fait, j'ai simplifié au maximum le processus de diffusion. T'as les formats longs, ça c'est sur YouTube, les histoires que je vais raconter. Donc, c'est très simple, hein. Je fais une aventure au pôle Nord, je sais que j'ai une version longue qui va sortir sur YouTube. C'est hyper intéressant ta question parce que tu vas voir que mon processus il est un peu. Vu que je suis tout le temps en voyage. Toujours en décalage et dans des coins reculés où il n'y a pas forcément de réseau, il y a des choix à faire aussi, tu vois. Donc, tout ce qui est long, c'est sur YouTube. Tout ce qui est court, c'est sur Insta, en story. Exclusivement en story.
Ouais.
Donc, toute ma vie est partagée en story. Il y a rien qui n'est pas partagé. Alors, bien sûr, tout ce qui est perso, ça reste plus ou moins perso. Mais, en gros, c'est très simple. Donc, je vis une aventure, je viens là, par exemple, au studio enregistrer le podcast. Ça va finir en story. Ça va pas finir en réel ni sur YouTube.
Ouais.
À moins que je décide de faire un truc spécial, tu vois. Mais en tout cas, c'est hyper simple, tu vois. C'est je vis une aventure, je shoote, je monte tout sur une application tierce qui s'appelle InShot.
Ok.
Et je partage généralement un jour après. Je partage jamais le jour J, par contre.
Ah ok. Et pourquoi tu fais ça? Parce que t'aimes prendre un petit peu de temps pour digérer, gérer tes stories.
Je vais prendre par exemple l'exemple quand je suis en voyage. Par exemple. Partir au pôle Nord 15 jours sans connexion, ça te fait faire des choix aussi. Tu vois, genre, tous les jours, donc je raconte ce que je fais comme d'habitude. Donc, je me mets en mode caméra, je raconte ce que je fais, je filme. Donc, j'ai à la fois du fil rouge avec moi qui parle, comme un vlog, mais sur mon tel, et à la fois des images un peu cinématiques. Au pôle Nord, donc, je pars aussi pour shooter, pour des marques. Donc, je fais des photos, j'utilise ma GoPro, je fais du drone. Et j'ai plein de contenu sur une journée. Et en fait, ce qui est hyper important pour moi, c'est de faire rêver les gens partout. Et je peux pas me permettre de diffuser des stories qui me plaisent pas. Donc, j'essaye de partager.
Attends, t'es en train de me dire que la vie de Julien Favreau en stories, c'est du différé, en fait. Alors, j'étais persuadé depuis le début que non, j'étais dans un direct.
Plus ou moins. Mais en tout cas, tu vois, au pôle Nord, quand je retrouve du réseau, je sais que jour par jour, je monte mes stories,
ouais.
Donc avec InShot, j'ai une version plus ou moins complète de la journée, mais j'essaye de regarder si j'ai des plans de drone, du coup je prends mes plans GoPro, et finalement, mes stories quand je suis en voyage, je peux avoir beaucoup de retard.
Je vais avoir beaucoup, beaucoup, mais je crois
que ce que tu dis là, en fait, c'est précieux pour ceux qui nous écoutent, hein, les CM, qui comprennent bien ça. C'est, la story, c'est pas forcément besoin que tu sois dans une immédiateté qui soit proche du direct. Fais du direct si t'as besoin d'être dans le direct. Par contre, t'as besoin de prendre du temps pour faire une belle story. La structurer, ouais. La rythmer, la poser au bon moment. Potentiellement, effectivement, faire tes images. De toute façon, évidemment, il vaut mieux utiliser... déjà rien que le stabilisateur de ton iPhone plutôt que le très mauvais stabilisateur d'Instagram.
Donc, non mais c'est fou, enfin, tu fais tout avec ton tel.
Donc tu fais tout avec ton tel et puis tu travailles avant et puis après tu le publies et que ça soit en différé, c'est pas vraiment grave en fait.
Ouais, bah après on rejoint la notion de contenu chaud ou contenu froid. Il y a des fois où, voilà, quand tu pars sur les 24 heures du Mans, c'est le temps d'un week-end, donc t'es obligé... t'as une course qui se passe, t'es en direct, t'es obligé de changer un peu ton mode de fonctionnement. Donc là, bien sûr que je vais partager le jour J ce qui se passe. Par contre, il faut s'autoriser en fait à ne pas publier en direct, parce que ne pas publier en direct, ça veut dire prendre un peu de recul sur ton contenu et un peu mieux réfléchir ton message. Donc que tu sois influenceur, créateur ou CM, c'est hyper puissant de prendre un peu de recul sur ton contenu et de voir comment tu vas partager tout ça, parce que t'as peut-être des contenus téléphone, t'as peut-être aussi des contenus caméra, et le fait de prendre du recul, ça va te permettre de voir qu'est-ce que tu mets en premier, les gens qui te connaissent pas, est-ce qu'il y a des choses à mettre avant, est-ce qu'il y a des choses à mettre après, et c'est hyper intéressant. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, les stories, beaucoup pensent que c'est du contenu un peu poubelle, c'est du contenu qui se perd au bout de 24 heures. Bon, c'est absolument pas ma philosophie. Tu vois, je passe le plus clair de mon temps, je pense, c'est éditer des stories. Pas non plus, mais je passe énormément de temps. Ouais. C'est inimaginable le temps que je passe sur InShot pour éditer, faire la colo de mes stories, mettre du texte, etc. C'est trop important. Et tu vois, de plus en plus, même dans une approche produit, Quand on me demande de bosser pour une marque et qu'une marque me demande mes prix pour une photo Insta ou pour des stories, maintenant je leur dis, en fait, les règles du jeu ont changé. Ta photo, elle va pas influencer, elle va pas transmettre une histoire, une émotion. Alors, tu peux, parce que aujourd'hui, avec une photo, donc là, je parle bien de photo, tu peux faire rêver les gens avec une photo. Si c'est bien fait, enfin, moi, je fais hyper attention à raconter une histoire en photo, tu peux. Par contre, d'un point de vue héroïste, c'est pas là que tu vas forcément transformer, parce que les gens, ils sont dans le beauty, ils sont dans le waouh et ils vont juste consommer une belle image. Par contre, en story, tu veux bosser pour, je sais pas, la Fnac qui lance un nouveau produit. Le fait d'humaniser ton message, que les gens te voient avec tes émotions, avec le sourire, et que tu dis bah voilà, le produit est trop cool, j'utilise depuis tant de temps, tiens, regardez ce qu'on peut faire avec. Là, t'es dans le vrai marketing de recommandation. Ouais. C'est hyper puissant.
Ce qui est super intéressant, c'est aussi de constater que mon feed, c'est un espace qui, s'il est bien utilisé, si j'utilise des formats comme Reel, peut être un espace de conquête. Ouais. Et la story est aujourd'hui le dernier réel endroit où je peux m'adresser à ma communauté. Parce qu'on le sait, la portée organique d'une publication photo lambda, elle va toucher quoi, 10% max de mes followers, 15 peut-être. En story, les pourcentages sont bien au-dessus. Donc en fait, c'est là un espace conversationnel avec ma communauté. C'est là que ça se joue.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais non, c'est comment dire c'est vrai que la story, c'est comme tu dis, c'est ton point d'entrée. Enfin, pas ton point d'entrée, mais c'est le...
Est-ce que c'est pas le cœur de ta vie communautaire, tu vois, avec toi?
Ouais, c'est exactement ça, en fait. Ouais. C'est le cœur de ta vie communautaire. C'est ce qui te permet d'échanger avec les gens, d'avoir des commentaires, d'avoir un feedback en temps réel. Et c'est même ta source de motivation première, en fait. Parce que les gens, ils répondent à des stories, principalement. Ils répondent un peu moins à des posts, un peu moins à des réels. Ça dépend, mais généralement, tu vois, sur des stories, il suffit que tu te livres un peu pour que tu aies une avalanche de messages, où il suffit que tu poses une question sur n'importe quoi pour trouver un milliard de personnes qui sont prêtes à t'aider. Dans une stratégie social media, dans une stratégie digitale, la story, Enfin, c'est plus qu'important, c'est le truc le plus important. Quoi.
Ouais, et reparlons de la grille un peu, parce que là, on constate quand même une sorte de tendance à simplifier ces grilles. Tu vois, on va dire la grille ultra léchée, ultra vitrine, etc. Elle semblerait que pour certains, elles soient en train de disparaître au profit d'un truc plus authentique, plus immédiat.
Tu parles du feed ?
Ouais, je parle du feed, de la grille, vraiment, de ta grille Insta. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a encore, parce que ta grille, elle est splendide, hein. Vraiment, on tombe dessus, c'est un portfolio, on a l'impression d'être dans une galerie, tu vois. Est-ce que tu penses que aujourd'hui il y a encore vraiment quelque chose qui joue sur la grille? Est-ce que c'est indispensable d'y mettre autant de détails, ou est-ce que après tout, vas-y, envoie ton contenu et te prends pas la tête?
Bah, ça dépend de l'objectif de chacun. T'es un créateur de contenu qui vend des formations, tu t'en fous d'avoir un feed stylé, tu vois. Toi, ce que tu veux, c'est transmettre un message, recruter et trouver des gens. Donc cette personne-là, tu vois, par exemple, il y a un mec qui m'inspire de ouf qui s'appelle Antoine BM.
Blanche Maison. Je connais pas.
C'est un mec qui vend des formations et qui a pris le virage de Insta. Il était à 10 000 abonnés il y a 2 mois. Aujourd'hui, il est à 70 000, je crois. Parce qu'il a percé grâce au réel. Et son feed, tu le vois, il est éclaté. Enfin, il y a rien qui est pensé. Enfin, je crois pas. Par contre, ses réels sont d'une puissance extrême. Donc il écrit tout, il a des introductions qui captent l'attention, et il a fait grossir sa communauté hyper vite.
Il a tout mis là-dessus,
ouais. Mais le feed, si tu veux, pour lui c'est secondaire. Pour moi qui suis photographe, Insta, ça a toujours été le point d'entrée pour les marques.
C'est ton portfolio.
Pour me découvrir.
Ouais, voilà. Totalement, ouais.
Encore une fois, les audiences, elles sont différentes. Tu vois, Antoine, il va trouver des gens pour acheter sa formation. Moi, je touche des gens pour les inspirer, et des marques pour qu'on essaye de trouver des trucs ensemble. Bien sûr, trouver des marques, c'est pas ma volonté première. Elles arrivent toutes seules. Moi, mon kiff, c'est vraiment partager. Ce qui me fait kiffer, ma vision du voyage, ma vision du monde et compagnie. Mais dans ce souci-là, je suis obligé de faire un travail assez poussé sur ce à quoi ressemble mon feed.
Ouais.
Donc aujourd'hui, quand je poste un réel, il faut que j'ai une photo hyper puissante à mettre dessus. Sinon, je poste le réel, je le laisse 3 jours. Et au bout de 3 jours, je l'enlève de la grille.
Est-ce que tu as constaté que ça faisait une diff de le mettre ou pas dans la grille?
Non, c'est purement esthétique.
Ouais, c'est ça.
C'est purement esthétique.
Mais tu pourrais aussi décider de le mettre que directement dans Reel, sans le mettre passer par ta grille. C'est pour lui donner un petit coup de boost au départ?
Non, c'est pas ça. Quand tu partages un réel, tu as une option qui est cochée, genre afficher le machin sur ta grille de profil. Sur ta grille.
Oui, c'est ça.
Et donc d'apparaître dans le feed des gens. Si tu décoches cette option, tu vas pas apparaître dans le feed des gens. Alors peut-être que ça a changé avec les nouveaux changements d'algorithme, mais avant, en tout cas, c'était ça.
Okay.
C'était que si tu partageais pas sur ton...
Oui, je comprends. Ah, oui, c'est vrai, t'as raison.
Sur ton feed, tu te privais d'une audience.
Bah, vous qui nous écoutez, vous nous préciserez. J'ai un doute. Mais il me semble que c'est plus le cas maintenant. Il me semble qu'on le retrouve quand même. Mais
Peut-être, ouais. Faudrait checker. Et après, il y a un truc hyper puissant aussi, c'est partager ses réels sur ses stories. Parce que tout de suite, tu prends 5, 6, 10 000 vues instantanément pratiquement.
Ouais, et c'est un véhicule quand même génial, le Reel, parce que finalement, c'est un contenu que moi aussi, je peux republier. Tu vois, une story, je peux pas la republier. Si tu m'as pas tagué dessus, je peux pas te republier. Par contre, un super beau Reel de Julien Fabreau, je peux le partager autant de fois que je veux en story à tout moment. Et c'est peut-être comme ça qu'il y a des Reels qui revivent, qui ont une deuxième vie.
Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, tu parlais du running. Présenter rapidement le truc, je bosse avec Hyundai, on en parlera peut-être plus tard. Je suis ambassadeur pour eux, donc ça fait 2 ans que je bosse. Enfin, on est sur la deuxième année de collab. Et Hyundai, d'un point de vue marque, ils se sont lancés sur le créneau du running, parce que c'est hyper puissant d'un point de vue marketing pour eux. On a lancé une OP qui s'appelle Run to Progress. L'objectif, c'est que moi, Julien, je fasse ma première course. Parce que d'un point de vue influence, c'est hyper puissant de montrer qu'on part de zéro et qu'on arrive à faire un semi-marathon à Marseille-Cassis.
C'est ça le projet, là.
Projet, c'est faire Marseille-Cassis avec une préparation en 50 jours. Okay. Donc autant te dire que c'est quasi mission impossible parce que le running pour moi c'est genre j'ai jamais fait, tu vois, j'ai jamais pratiqué.
Ouais, c'est un beau challenge.
Donc c'est un beau challenge. Donc pour aller encore plus loin, on a fait gagner à 4 personnes le fait de s'entraîner avec moi avec un dispositif global. On reçoit une montre de Polar, on a un coaching personnalisé.
C'est un co-branding ça, Polar, c'est un qui se greffe là-dessus, c'est dealé avec Hyundai et Polar.
Ouais. Okay. Et bref, il se passe plusieurs trucs.
Et juste, excuse-moi, avant que tu rentres dans le détail, cette activation-là, c'est toi qui en es à l'origine, comment ça se passe? C'est toi qui dis à Hyundai, ça serait cool de faire ça? Ou vous en cogitez ensemble? Ou ils arrivent en disant, on a imaginé ça?
Bah, en fait, en début d'année, si tu veux, donc là, on a re-signé, avant qu'on re-signe, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On savait qu'on voulait re-signer pour la deuxième saison de la web-série qu'on fait ensemble. Il savait qu'il voulait se mettre sur le running et on savait qu'on voulait la partie fil rouge avec le fait que je roule en voiture électrique au quotidien, etc. Sur la partie running, c'est moi qui ai proposé le fait de potentiellement faire une vidéo YouTube et d'associer à ce projet Bucket, parce que dans ce que je veux faire dans ma, enfin dans l'un des trucs que je veux faire dans ma vie, c'est au moins courir une fois dans ma vie le marathon, parce que c'est hyper puissant d'un point de vue perso. Et en fait, ils sont revenus 6 mois après vers moi avec une mécanique un peu plus appuyée. Tu vois, genre, ils bossent avec des agences comme toi, ils bossent avec Avas, Inocean et compagnie.
Donc, ils t'ont fait une proposition, ils disent, tiens, on imaginerait comme ça, qu'est-ce que t'en penses?
Donc, tu vois, l'idée de base, elle est partie un peu de moi. Ensuite, eux, ils ont réfléchi au dispositif et le dispositif qu'ils avaient imaginé était top, quoi. Donc, on a fait gagner ça. Et juste pour faire la transition avec ce qu'on disait, j'ai fait un reel pour annoncer le jeu concours. Donc c'était la première fois que je faisais un reel concours. Et la mécanique, c'était je partage mon message en vidéo, je dis ce qu'on va faire, l'objectif c'est ça, je me suis lancé un nouveau défi, je cherche 4 personnes motivées pour le faire avec moi. Les mécaniques, c'est partager le reel en story, taguer un ami pour la virilité et s'abonner à Polar, Hyundai et moi. Tu vois. Et en fait, ça a cartonné. Parce que les gens pouvaient partager le...
Ouais, ça, c'est la force de ce format.
Donc, c'est cool, quoi. Donc, le format Reel sur Insta, tu vois, j'étais pas fan il y a encore 6 mois. Je commence à vraiment tomber amoureux du format. Et encore une fois, je pense que c'est la nouvelle porte d'entrée pour toucher de nouvelles communautés.
Ouais, bien sûr.
C'est hyper important. Ouais. Donc là, je suis hyper challengé en ce moment. Et je suis chaud patate, quoi.
C'est bon, ça, c'est bon. Mais on est tous un peu là. Je crois qu'on a tous eu un moment de découverte aussi de ces formats short form vidéo, quoi. Hein, vraiment 9/16, très court, etc. Et là, on commence à toucher du doigt le potentiel, quoi. Donc, c'est vraiment chouette. J'aimerais qu'on parle de ta, parce que là, on a parlé de Hyundai. Tu es ambassadeur de plusieurs marques. Alors, moi, j'en ai noté quelques-unes. Canon, GoPro, Hyundai. Ouais. Elles sont sur ton, c'est simple, elles sont sur ton statut, sur ton texte de bio Instagram. C'est clair et net. Et avec une Hyundai, justement, tu produis une web série qui s'appelle Les Inspirations Locales. On va y revenir. Tu vas nous expliquer ça. C'est une série vidéo qui est dispo sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Hyundai, sur laquelle tu mets en avant leur gamme de véhicules électriques, etc. Ça veut dire quoi, en fait, être ambassadeur de marque?
Alors, être ambassadeur de marque, ça veut dire bosser avec une marque en fil rouge. Dans un premier point. Dans un deuxième point, c'est être attaché à cette marque d'un point de vue valeur. Et 3, ça veut dire imaginer ensemble des contenus et amener le discours un peu plus loin. Okay. Et je pense que c'est un peu ça ma définition. Donc comme tu l'as dit, je suis ambassadeur de plusieurs marques et c'est que des marques qui me ressemblent et qui me font kiffer et où ça passe bien et où il y a une confiance mutuelle.
Donc toi tu fais un deal à l'année avec eux.
Ouais, c'est ça.
Concrètement, Julien, cette année on signe ensemble, boum, sans rentrer dans les détails chiffrés hein, mais t'as un deal annualisé avec eux, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
En fait, ce qui est intéressant, c'est plus derrière. En fait, j'étais blogueur. Je suis youtubeur aujourd'hui et depuis 2016 j'avais des campagnes qui s'enchaînaient de ouf en one shot.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'à l'année t'avais pas 3 clients, t'en avais 50 autant.
Ouais, bien sûr.
Parce que t'as des placements sur YouTube, t'as des placements sur Insta, t'as des activations autres, et tu t'y perds. Et en fait, quand tu prends un peu de recul sur ce que tu fais, tu te dis, mais en fait, je bosse pour Mini, je bosse aussi pour Audi, je bosse pour BM. En fait, tu bosses pour tout le monde, tu vois. Et d'un point de vue message, alors, si t'es spécialisé dans l'automobile, ok, y a pas de souci. Si t'es comme moi, un peu plus grand public, etc., tu peux parler de tous les sujets, mais si tu parles de tous les sujets à chaque fois avec tous les acteurs du marché, c'est un peu
oui, ta crédibilité elle est compliquée à vraiment
entendre. Niveau crédibilité, c'est un peu compliqué, et puis on a tous aussi des affects avec telle ou telle marque, tu vois. Donc en fait, en 2020, année du Covid, j'ai essayé, c'était vraiment genre le moteur de mon année, c'était l'objectif, c'était réussir à faire moins de collabs pour faire plus de projets, moins de collabs,
moins de one shot
et plus de contrats à l'année. Donc ça veut dire, au lieu d'avoir 50 clients, j'en ai 3 ou 4 où on se met d'accord sur un message à diffuser à telle fréquence, etc.
Ça, on voit bien que c'est dans l'ordre des choses. On va dire que c'est ça qui fait peut-être aujourd'hui la différence entre un influenceur et un créateur de contenu, ou un influenceur et un key opinion leader. Tu vois, vraiment quelqu'un qui a un pied chez la marque. Est-ce que tu penses que demain, un statut d'ambassadeur comme le tien auprès de Hyundai, etc., ça peut aller jusqu'à des phases de co-création? Ça peut aller jusqu'à... Julien, on te prend parce que tu nous produis du contenu, parce que tu as un périmètre d'influence, mais aussi on aimerait bien avoir ton avis. Est-ce que vous avez déjà, avec les marques que tu accompagnes, ce retour-là?
Ouais, de ouf. Et c'est ça que je kiffe, justement. Ouais. C'est que, en fait, être ambassadeur, il y a cette notion de rentrer dans la famille. Et quand tu rentres dans la famille, c'est que tout le monde s'entend bien, tout le monde se fait confiance, et cette confiance mutuelle t'amène à avoir des réflexions communes. Comment ça s'est passé avec Hyundai? On est en 2020, je crois.
Oui, possible.
Bon, je sais plus, 2020 ou 2021. Je reçois un mail, on veut bosser avec toi à l'année dans le cadre d'un projet. Donc ils avaient un premier projet, les inspirations locales, justement.
Ouais, très cool d'ailleurs. Moi je suis allé voir les vidéos, j'ai appris plein de trucs, j'ai vu qu'on pouvait boire directement de l'eau sortie de pot d'échappement d'une bagnole à hydrogène. Voilà, je ne savais pas.
Exactement. Et en fait ils sont venus avec ce projet. Donc aussi le fait de vouloir que je le fasse à l'année. En fait là c'est moi qui leur ai dit. Donc là on n'avait rien signé encore. C'était en mode moi ce que je vous propose c'est d'aller plus loin. C'est que on imagine autour des inspirations locales un projet qui m'intègre plus chez Hyundai. Donc en fait, je leur ai pas fait un devis pour une chose, je leur ai fait un devis pour trois choses. Donc j'ai intégré dans mon devis ce qu'ils voulaient, donc les inspirations locales, premier pilier. Deuxième pilier, j'aurais dit que ça pouvait être pas mal d'imaginer des road trips, un ou deux road trips en France ou en Europe, où je crée une histoire de toute pièce autour d'un de leurs véhicules. Et trois, une partie fil rouge, où là, je joue pleinement mon rôle d'ambassadeur. Donc, je parle des lancements, je roule en...
Ouais, tu racontes dans tes stories, etc.
Voilà.
Ouais.
Donc, en gros, il y a eu une phase de co-création directe, parce que eux, ils m'ont fait confiance en mode, on veut bosser avec toi et pour être sur ce programme. Moi, je leur ai fait un peu une contre-offre, etc. Et en fait, ça a été validé et on s'est... tous basés sur ça pour aller plus loin.
Ouais, donc en gros, si je comprends bien, moi, ce que toi, tu leur offres, c'est de la création de contenu et puis aussi ton périmètre d'influence.
J'irai même plus loin, je leur propose donc de la création de contenu, alors de l'influence, de la création de contenu et plus ou moins ma vision sur tout ça.
C'est que, ouais, c'est ça, bien sûr.
Comme tu le dis, et enfin, c'est pour ça que ça se passe trop bien, c'est qu'on co-crée, tu vois. On co-crée plein de choses avec Hyundai et ils ont beaucoup d'activations et bien souvent, en fait, on se retrouve, on a beaucoup d'échanges téléphoniques toute la semaine, de visio et.
Et là, t'es en direct avec eux ou tu passes par. T'as une agence qui fait tampon
Alors on a toujours des. Enfin, dans tout ce que je fais, il y a InOcean, donc l'agence Créa et Hyundai. tout le temps.
D'accord, vous êtes un trio, donc, puis on est un vous échangez ensemble,
on
etc.
est trio. Okay. Je me associe avec un cadreur qui est un de mes meilleurs potes, Victor, qui m'aide vraiment à fond sur ce projet aussi Inspiration Locale.
D'accord,
qui,
donc là t'es venu avec ton équipe prenante. Sur la création de contenu, t'as dit ok,
ouais, c'est ça, ouais.
Vous inquiétez
ouais.
pas, c'est moi qui produis.
Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. En fait, si tu veux, ma boîte elle produit, moi je réalise la web série. Et je suis aidé par Victor sur le cadrage et sur
c'est super intéressant que tu nous expliques tout ça parce que je pense qu'il y a un paquet de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui disent putain mais depuis le temps que je dis que l'influence c'est pas genre je te balance un goodwill et puis il sera bien content de parler de moi dans ses posts, c'est beaucoup plus complexe que ça et surtout c'est une micro agence en fait hein, aujourd'hui Julien Fabreau quoi, quand on fait appel à toi bah, on a du concept, on a de la prod, on a de la logistique, on a de l'influence, on a de la production de contenu, on a tout ça à la fois. T'es une mini agence en fait.
Ouais, carrément. Mais comme aujourd'hui tous les influenceurs qui vivent de ça, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Moi, si tu veux, j'ai pris ce parti pris de créer un autre business bon, qui est quand même un petit peu lié, mais créer un autre business. En backup au cas où tu vois on sait jamais comment ça peut bouger l'influence, j'ai pris un peu du recul sur le métier d'influenceur en me disant il me faut quand même un truc que je développe à côté au cas où et c'est pour ça que cette agence est née en fait tu vois cette, ouais, ouais. Cette boîte de prod, mais c'est vrai que tu prends
si t'as un MeToo qui te tombe dessus par exemple au moins boum t'as ta boîte à côté. Non je comprends.
Voilà. Non mais après tu prends des youtubeurs, d'autres influenceurs, on commence tous à être staffés, à avoir des agents, à avoir des cadreurs, à avoir des monteurs, et il y a de plus en plus de business en fait autour de ça, tu ouais. vois, genre les montants qu'on dealait il y a 10 ans, 5 ans, ils sont has-been quoi, ouais. parce qu'aujourd'hui, t'as toute la partie session de droit, t'as toute la partie t'as toute la partie diffusion, t'as de la pub qui est réalisée par les marques derrière, ouais. T'as toute cette écriture du concept qui prend du temps, le métier de créateur de contenu s'est professionnalisé de ouf là depuis ces derniers temps.
Ouais, bah, nous qui consommons, jamais, quoi, nous qui consommons, si moi je me mets en tant que consommateur de ces contenus, c'est flagrant. On voit, oui. enfin, je veux ouais. dire, la différence de prod, elle est notable, ouais. d'écriture aussi.
Mais hein. ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup, et ça chez tous les créateurs de contenu, qui préfèrent le contenu d'avant, quand il était beaucoup plus authentique, beaucoup plus simple et moins waouh, tu vois. Mmh. Bon, on me le dit beaucoup, par exemple. On me dit beaucoup, je préférais quand tu faisais tes vlogs avant.
Ouais, bah forcément, parce que peut-être aussi c'était moins brandé. Tu vois,
moins brandé, il y avait moins.
Il y aura toujours des gens qui préfèrent avant.
Non mais c'est vrai, ouais. c'est vrai. Et puis après, bah même quand je raconte mes histoires, avant je partageais tout. Ouais. Donc c'était vraiment hyper authentique, etc. Aujourd'hui, tu te poses un peu plus de questions, tu prends un peu plus de recul parce que bon, tu fais aussi des erreurs, tu sais, qui te conduisent vers des trucs. Avant, je partageais tout, je partageais tout. Ouais. C'est hyper dangereux et je me suis rendu compte que c'était vraiment dangereux, quoi. Donc, ouais.
Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de TikTok? Est-ce que TikTok, aujourd'hui, quoi, 15 000 abonnés à peu près sur TikTok, c'est
15K,
ça
ouais.
15K.
C'est pas ouf, mais...
Ça fait longtemps que tu t'y es mis. Comment... J'imagine que t'as ouvert un compte quand c'est sorti, mais après, là, que tu t'es sérieusement dit, allez, vas-y, je tente des choses.
En fait, j'ai des phases avec TikTok. Des phases où je me dis, bon, bah, vas-y, pendant une semaine, je teste, je publie une vidéo par jour. Sauf que ça dure une semaine.
Okay.
Donc là, je prends 5 000 abonnés. Ça m'est arrivé trois fois, d'où les 15K en fait. Et ouais, en fait, j'ai du mal à être hypé par TikTok. Parce qu'en fait, tu peux faire tellement de vues facilement. Tu vois, j'ai des reels qui.
J'ai vu des trucs à 500 000 vues.
Des vidéos, ouais, qui ont fait 500 000 vues, 1 million. J'en ai une ou deux, 1 million, je crois. Et en fait, c'est tellement facile de faire des vues que tu te poses vraiment la question en tant que créateur, qui est-ce que je touche, tu vois? Est-ce que c'est des vraies personnes? Est-ce que c'est des Français? Est-ce que il y a un but à tout ça? Et ça me fait toujours un peu peur en fait TikTok. Donc j'y vais, je suis pas hypé par le truc.
Sur la pointe des pieds.
De ouf, ouais. de ouf. Mais là où je trouve qu'ils sont puissants, c'est que là ça fait depuis quelques temps que je consomme, que j'y vais de plus en plus souvent. Tu vas sur TikTok, tu te rends pas compte du temps passé sur TikTok.
Ah, bien sûr.
Et d'un point de vue marketing, là où c'est puissant, c'est que bah, tu peux beaucoup plus recruter que sur Insta. Tout simplement parce que t'as une vidéo qui tombe dessus. Déjà, t'as pas tes abonnés qui tombent en premier quand tu ouvres l'appli. T'as des recommandations. Que des recommandations.
Est-ce qu'il marche bien, la recommandation centre d'intérêt pour toi?
Ouais, ça marche bien. Et surtout, bah, ce qui est puissant, c'est que t'as le bouton s'abonner.
Directement sur la vidéo, ouais.
Donc là, c'est hyper puissant, et une vidéo qui buzz, tu gagnes 5000 abonnés direct, quoi. Enfin, c'est fou.
Bah, justement, j'ai regardé ton contenu, pareil, oui, il y a des vidéos qui dépassent 1 million, il y a des vidéos à 500 000, et puis aussi, il y a des vidéos à 2000. Ça, c'est très ouais. TikTok. Comment ça se fait, selon toi? Est-ce que t'as réussi à comprendre comment craquer cet algorithme TikTok? Parce que là, c'est très mystérieux, hein. Il y en a, boum, d'un coup, t'as une explosion, ouais. D'un coup, t'en as qui font un flop absolu. Est-ce que tu y vois plus clair que moi?
Comme beaucoup, tu vois, j'ai des potes qui ont 500 000 abonnés, 600 000, 1 million, qui font toujours 2000 vues par vidéo.
Ouais.
Et il y en a d'autres qui font 200, 300, 2 millions de vues. Alors que t'as une régularité sur Insta, tu vois. Sur Insta, ma moyenne de vues, c'est 20 000. Parfois, t'as des trucs qui pop, qui partent, mais t'as pas une vidéo en dessous de, allez, 15, 20 000.
TikTok. Ce qui est étonnant, c'est la portée organique, communautaire, tu vois, sur TikTok, elle est difficile à comprendre.
Je comprends pas.
T'as l'impression que parfois, juste, ta vidéo part pas, en fait.
Ouais, mais c'est ça. Mais je pense, en fait, que il y a une toute petite partie de l'audience qui va voir les gens qui suivent. Par contre, comme sur Insta, les non-followers que tu touches, c'est énorme. Donc en fait, je pense que t'as un taux d'engagement qui est éclaté au sol, en réalité, sur TikTok, et une capacité à pouvoir toucher, si l'algorithme pense que tu fais, que ton message est bien, je pense que t'as une capacité de toucher les étoiles sur TikTok que t'as pas sur Insta, tu vois.
Ouais, mais justement, avec l'algorithme de TikTok, moi je trouve qu'on assiste à une sorte de nivellement. C'est moins la taille de ta communauté qui compte que intrinsèquement la capacité à ce que ton contenu y viralise concrètement. Est-ce que toi t'as l'impression qu'on assiste à une sorte de disparition de la notion de communauté au profit du contenu et de la viralité? Parce que Instagram est tenté d'aller aussi dans cette direction. Je te pose la question à toi parce que t'as des communautés, t'as travaillé, ça fait 10 ans que tu travailles à les constituer, ces communautés. Est-ce que t'as l'impression que ces notions de communauté, elles sont fragilisées?
Sur Insta, non. Insta est vraiment communautaire. TikTok, ouais. Et j'ai encore du mal. Alors, oui, j'ai pas une vision assez précise de la chose. Tu vois. Je consomme le contenu sur TikTok. Après, d'un point de vue créateur. Non, ouais, en fait, c'est simple. J'ai aucun aspect communautaire sur TikTok.
Ouais.
J'ai personne qui revient. De manière régulière sur Insta, j'ai l'impression d'être pote avec certains abonnés, tu vois, parce que on échange depuis des années, depuis des mois.
Et tu vois pas de risque à ce que les choses se fragilisent, hein, avec cet algorithme qui sont en train de sortir, le fait que Reel soit vraiment orienté conquête et que les autres formats plus historiques, la portée organique communautaire baisse dessus.
Ça me fait moins peur parce que tu gardes le côté story, tu vois.
Ouais.
T'ouvres Insta. T'as les stories qui sont là, enfin que tu vois en premier, et c'est sur ça que tu vas cliquer en premier. En fait, tout le monde consomme les stories à un point, donc Insta va pas supprimer les stories tout de suite. Je touche du bois. Mais en tout cas, grâce aux stories, t'es connecté à ta communauté, ouais. Tu vois. Mmh. Et c'est pas le cas de TikTok, en fait.
Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'on commence à avoir quelque chose de très lisible avec mon contenu qui est orienté conquête, hein, des formats qui sont très orientés conquête. Parfois, en fonction de tes objectifs, soit je lâche prise sur ma grille et je joue la carte 100% de la conquête, c'est pas grave. Parfois, j'ai le besoin de faire de la preuve sociale, comme toi, d'avoir un truc très clean, très propre. Ouais. Et puis, le cœur de mes interactions communautaires, elle est dans mes stories côté Instagram, ça c'est flagrant. Hein.
Ouais, c'est ça.
Et les MP, hein, du coup, par répercussion, qui sont énormes. Julien, énorme discussion là. Je sais plus combien de temps ça fait une heure et quart qu'on se parle. On s'est dit beaucoup de choses. Je suis sûr qu'on aurait plein d'autres trucs à se dire. Si on veut papoter avec toi, sinon là les gens qui nous écoutent, s'ils veulent te retrouver, où est-ce qu'il faut qu'ils aillent?
Pour papoter, c'est quoi le mieux? Insta, hein.
Instagram.
Alors j'essaye de répondre aux gens.
Ouais.
Je dis bien j'essaye. Mais vu que je suis très très régulier sur Insta, je partage toujours des stories, etc. Il y a toujours des trucs sur lesquels rebondir. J'ai beaucoup de messages. Et soit je mets du temps à répondre aux gens,
soit
je réponds pas, parce que il y a vraiment beaucoup de messages. Par contre, je pense que je les vois plus ou moins tous.
Ok, allez lui péter sa CMP à Julien Favreau.
Voilà. Non, mais par contre, si c'est intéressant, en fait, moi, je fais beaucoup de vocaux. Parce que écrire, ça prend du temps. Ouais. Donc, je réponds aux abonnés, aux gens par vocal, tu vois. Tous les gens, je réponds à des gens.
Si vous suivez pas Julien encore sur Instagram, allez le
venez,
suivre.
Venez, on va parler.
venez lui péter CMP, vous venez de notre part, c'est avec grand plaisir. Et puis, on peut te retrouver aussi, bien sûr, sur YouTube. Ou ailleurs, t'es ailleurs. Bah, TikTok, bien sûr, on l'a dit.
TikTok, YouTube, Insta et
Twitter,
et voilà,
non
et c'est déjà
pas trop.
Mal. Twitter, quand j'étais CM et blogueur, c'était mon réseau social numéro 1.
Je crois avoir vu un vieux @piwi qui traîne quelque part. C'est possible ça ou pas?
Ouais, il existe encore. Et sur Twitter, j'ai eu 16 000 abonnés, mais je pense que j'ai pas pris la parole depuis 3 ans,
okay,
à peu près. Donc Insta et YouTube.
Julien, énorme merci. Merci beaucoup pour les échanges. Plein de trucs à retenir de tout ça. Les amis, vous écoutez ce podcast dans une application de podcast. Vous connaissez les bails, hein. Vous n'hésitez pas, vous balancez 5 étoiles, vous mettez un commentaire. Vous partagez aussi cet épisode à une pote, à un pote. Je suis sûr qu'il peut retenir plein de choses super intéressantes de notre discussion avec Julien Favreau. Et puis voilà, puis on se donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures. Merci Julien, merci beaucoup.
Je fais une story.
Vas-y, je t'en prie. Salut, ciao, bye.